Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka l'ingresso in aria ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 14e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé. Alors avant de vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, il est temps de saluer notre ami Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Salut Johan et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
Alors aujourd'hui, le football n'a toujours pas repris en Italie, Guillaume. Ça c'est une constante des dernières semaines. Alors
c'est
même
parfait.
Si, voilà, on enregistre, on est un lundi matin, lundi 4 mai, même si pour le moment les entraînements individuels ont été autorisés dans les centres d'entraînement des clubs. On verra ce que ça va donner dans les semaines à venir parce qu'on sait jamais. Hein. Il y a vraiment des choses très compliquées entre le gouvernement, le ministre des Sports, le Premier ministre, les clubs, la fédération, la Ligue. Bref, c'est un bazar pas possible. Donc, on a décidé de laisser ça de côté parce que franchement, ça change du jour au lendemain. On va se projeter un petit peu sur le mercato à venir cet été. Alors, je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point sur les dossiers qu'on annonce très chauds pour les semaines à venir, car même si la crise sanitaire risque évidemment d'avoir des conséquences sur le marché des transferts, on imagine qu'il y aura quand même des beaux mouvements, oui, des mouvements importants aussi. Cet été, peut-être pas autant que les autres années, mais il y aura quand même des choses qui vont se passer. On a donc listé, Guillaume, 10 dossiers majeurs que les clubs vont devoir gérer ou résoudre à partir du mois de juin. On imagine juin, ça peut être juillet, août, on ne sait pas encore non plus quelles seront les dates du mercato. Guillaume, on entre dans le vif du sujet et on commence par un gardien qui fait beaucoup parler depuis très longtemps, depuis qu'il a commencé en fait, c'est simple. Hein. Depuis qu'il a commencé, tous les étés on parle de son futur et de son avenir, c'est Gianluigi Donnarumma.
Exactement, c'est un sujet compliqué pour l'AC Milan pour une raison toute simple, c'est que son contrat expire dans un an, donc en 2021. Donc dans l'absolu, on pourrait dire que que sont pris, alors un peu à l'image de Paul Pogba, mais évidemment que quand ton contrat se termine dans un an, dans la logique, ton prêt quasiment diminue de moitié, parce que pour un club intéressé, il suffit d'attendre une seule saison, même pas 6 mois, janvier, pour le mettre sous contrat pour l'année prochaine. Donc ça, c'est la première donnée à mettre pour Donnarumma. L'autre donnée, et ça on la connaît, c'est que son agent est Mino Raiola, et que pour négocier avec Mino Raiola, c'est pas forcément simple. On sait que
c'est du sport, ouais.
Voilà, que l'agent italo-néerlandais a beaucoup de doutes, avait déjà beaucoup de doutes sur le projet chinois de l'époque, et avec le temps, honnêtement, le temps lui a donné raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le départ de Zvonimir Boban, des dirigeants du Milan et probablement celui de Paolo Maldini, voilà, un départ n'est évidemment pas exclu. Surtout, j'ai envie de te dire, Johan, c'est qu'on probablement, et peu importe si la saison reprend, c'est que Milan ira difficilement en Ligue des Champions. Et que Donnarumma, lui, a envie de la jouer. Il a beau être très jeune, et c'est vrai que parfois on l'oublie parce qu'il a plus de 250 matchs en Serie A. Évidemment que Donnarumma, à un moment, a envie de se confronter à la C1 et voilà, à la grande compétition et à ses soirées européennes du mardi, du mercredi, qu'il ne connaît pas encore. Il a joué à Ligue Europa l'année dernière avec Milan, c'est pas très bien passé, pas pour lui, mais plutôt pour son équipe. Et voilà, c'est certain qu'aujourd'hui, pour lui, c'est un moment décisif. Pour Milan, l'objectif de ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent le prolonger avec un salaire moindre, parce qu'il touche actuellement 6 millions d'euros.
6 millions nets. Hein.
6 millions nets, évidemment. À l'époque, alors c'était l'époque du Milan version chinoise, mais Fassone, Mirabelli avait tout fait pour le prolonger. C'était un combat de longue haleine. Au début, il y a eu un communiqué officiel pour annoncer son départ. Ensuite, il y a eu une marche arrière parce que Donnarumma, lui, sa volonté, c'est celle de rester. C'est-à-dire que lui est vraiment amoureux de ce club. Il a toujours dit que c'est un supporter du Milan. Le problème, c'est qu'à un moment, si tu lui baisses son salaire qui est énorme et que lui a envie de le conserver, et derrière, tu ne lui offres pas de Ligue des Champions, tu ne lui offres pas un projet sportif gagnant, les difficultés sont toujours là, les saisons se suivent et se ressemblent. Donnarumma, à un moment, il va se dire « bah oui, mais moi, j'ai beau aimer ce club, au moment, je vais voir partir. » Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, récemment, la Gazzetta a parlé d'une possible prolongation en disant que les négociations étaient entamées, sans que toutefois, voilà, il n'y a rien d'acté pour l'instant. Moi, mon avis à moi, c'est que Donnarumma, moi, je l'imagine rester parce que lui a cette envie vraiment de ramener, pas Milan, voilà, pas vers le titre, mais au moins le ramener avec les champions. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a deux solutions. Soit Milan le prolonge et du coup, voilà, est tranquille pour encore quelques années, ou Milan le prolonge pas et est contraint de le vendre l'été prochain, parce que tu peux pas vendre Donnarumma, du moins le laisser partir à 0 euro. Aujourd'hui, Donnarumma, dans l'absolu, en faisant abstraction du contexte actuel lié au coronavirus, le prix de Donnarumma avec un contrat, on va dire, jusqu'en 2024-2025, son prix probablement est autour des 70 millions, peut-être, ouais, voilà, sur les gardiens. C'est toujours compliqué de fixer un prix, mais voilà, on va dire que c'est par là. Là, aujourd'hui, Donnarumma, à un an de la fin de son contrat, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est vraiment un sujet épineux pour Milan. Va falloir peut-être faire un effort financier. Bon, on sait que les caisses sont pas forcément très garnies en ce moment. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, pour moi, Milan doit vraiment tout faire pour le garder, parce que c'est un gardien qui reste quand même du haut de ses 21 ans, un gardien qui reste exceptionnel.
Et il y a une solution qui pourrait convenir à tout le monde, Guillaume. C'est que j'ai lu sur la Gazzetta dello Sport ce week-end. Il y a l'idée de le faire prolonger d'une seule saison, donc de l'emmener jusqu'en 2022, et de le vendre l'été prochain, où il n'y aura pas du coup les impacts du coronavirus, et il y aura peut-être aussi un marché pour les gardiens, parce que là ça paraît quand même un peu serré, parce que si Donnarumma part de Milan, on est d'accord qu'il faut un top club qui lui assure la Ligue des Champions, et un salaire confortable. Aujourd'hui, dans les top clubs, ça semble un peu bouché quand même pour lui.
C'est les chaises musicales, hein. On le sait avec les gardiens, c'est vraiment qu'un joueur, un gardien parte pour qu'après l'effet boule de neige prenne pour que Donnarumma éventuellement trouve un club.
Exactement. Donc l'idée, ça serait pour Milan de lui proposer une prolongation. Alors, je reprends vraiment ce qu'a dit la Gazzetta dello Sport, c'est un an de prolongation, un salaire légèrement inférieur, c'est-à-dire non pas 6 millions d'euros nets, mais 5 millions d'euros nets. Donc une petite économie quand même pour le Milan, et ensuite négocier son départ l'été prochain, où il y aura des conditions sans doute plus favorables. Et c'est quelque chose qui peut convenir à la fois à Donnarumma, parce que tu peux quand même te projeter en te disant « Allez, je laisse encore un an au club pour qu'il se débrouille pour m'offrir un projet sportif un peu meilleur, et notamment une participation en Ligue des Champions. » Au pire, je pourrais partir en 2021 où les conditions seront un peu plus favorables. Et en attendant, je suis sécure, je joue, je suis titulaire et je gagne encore un peu en expérience. Donc, c'est vrai que c'est une solution qui pourrait convenir un peu à tout le monde. Le deuxième dossier, Guillaume, qui concerne des joueurs de Serie A, c'est Jérémy Boga. Alors, Jérémy Boga, c'est évidemment le meilleur joueur de Sassuolo cette saison. On en a souvent parlé dans nos podcasts cette année. En fait, il a un profil qui est très recherché aujourd'hui dans le football, c'est-à-dire que c'est un joueur capable de s'inscrire dans un collectif, parce qu'on le voit avec De Zerbi, c'est un collectif qui est exigeant, avec des circuits très précis, donc il faut respecter évidemment ce que met en place De Zerbi, mais en même temps, il est capable de faire des différences individuelles. Et aujourd'hui, les joueurs qui coûtent cher, entre guillemets, en termes d'indemnité de transfert, c'est des joueurs qui sont capables de faire des différences individuelles tout en réussissant à respecter des consignes collectives très précises. Il a les capacités techniques, il a les capacités physiques pour briller dans les 1 contre 1, et justement, on l'a vu hein, cette saison en Serie A, faire éclater des défenses. On peut parler de la défense de la Roma, de la Fiorentina, on a vu un super but contre la Juve aussi. Il est capable de créer des brèches, marquer des buts en solitaire, donc c'est vraiment un profil qui est très recherché. La deuxième chose, c'est qu'il est jeune encore, il vient d'avoir 23 ans. Donc c'est un joueur, pour un club, il peut y avoir l'idée, au bout de 2-3 ans, après son arrivée, de le céder et de faire encore une plus-value s'il continue sur cet axe de progression. Parce que mine de rien, quand tu auras 25-26 ans, bah, le club qui va l'acheter peut encore lui proposer un contrat longue durée de 4 à 5 ans où il sera dans son prime en termes footballistiques. Et puis le fait qu'il soit jeune, c'est aussi qu'il en a encore sous la semelle, en fait, tout simplement. Physiquement, il a encore... il a encore beaucoup de jus, et pour un joueur de 1 contre 1, c'est évidemment important. Alors, la valeur, Guillaume, de Jérémy Boga, c'est toujours un peu difficile. On parle quand même globalement de 20 à 25 millions d'euros, je pense, dans ces environs-là. Le type de club qui pourrait être intéressé, Naples, la Roma, Milan, la Lazio. Alors, la Lazio, c'est pas forcément compatible avec le système de jeu actuel, le 3-5-2,
ouais,
parce qu'il n'y a pas d'ailier. Voilà, il n'y a pas d'ailier, mais par exemple, Naples, la Roma et Milan, on imagine que c'est un joueur qui pourrait tout à fait convenir dans ce projet, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure de plus-value aussi, notamment du côté du Milan et de la Roma, c'est quelque chose qu'on regarde évidemment. Il y a quand même une chose à préciser qui est importante, c'est qu'il a une clause de rachat, enfin, c'est Chelsea, pardon, qui a une clause de rachat pour Jérémy Boga, parce qu'on sait qu'il vient de Chelsea et qu'il est arrivé de Chelsea à Sassuolo. Donc voilà un peu les données du dossier Boga. C'est un joueur, Guillaume, qu'on a vu progresser, beaucoup progresser, cette saison qui est de plus en plus décisif, et évidemment, il a tapé dans l'œil de pas mal de gros clubs.
Écoute, Boga, on a parlé longuement, comme tu l'as dit dans les podcasts précédents, honnêtement, Boga, dans un 4-3-3 actuellement, c'est l'un des meilleurs interprètes de son rôle. Il sait quasiment tout faire pour son jeune âge. Il est encore très mature et sa marge de progression, pardon, est encore grande. Mais voilà, sa vitesse, sa capacité à dribbler, il a quasiment marqué des buts tous autant spectaculaires les uns que les autres cette saison. C'est vraiment un joueur qui ferait du bien à beaucoup de clubs. Voilà, il se murmure quand même que le Napoli est notamment probablement le club le plus intéressé. Après, le Napoli aussi, il faut probablement qu'il dégraisse. Donc ce sera pas simple aussi, mais voilà, moi je pense que pour Boga, honnêtement, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs, du moins de franchir ce cap pour signer dans un club, on va dire, un peu plus huppé que Sassuolo. Mais Boga en ailier, c'est quelqu'un d'exceptionnel, et je te dis, moi, sa marge de progression, son potentiel encore inexprimé, De Zerbi en a longtemps parlé. Voilà, moi le seul petit défaut que je voulais trouver. Et voilà, il y a beaucoup de qualités, mais c'est vrai que parfois sa capacité, enfin son manque de capacité à, tu sais, le dernier geste, parfois il oublie de faire la passe, ou alors quand il doit faire la passe, il la fait pas, ou quand il la fait. Voilà, c'est vraiment parfois dans le dernier geste, il pêche un peu de quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, voilà, Boga, c'est un des joueurs qui va animer le mercato. Et j'aimerais bien, en tout cas, mais c'est la tendance actuelle, qu'il reste en Italie parce que voilà, c'est un joueur aussi qu'on a pris en affection. Voilà, on rappelle toujours que Chelsea, alors c'est toi qui me l'avais expliqué, hein, que Chelsea a toujours aussi une option, peut-être pour le rapatrier. Voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'il reste en Italie parce que c'est un joueur qui peut littéralement exploser. Et qui peut devenir vraiment un des meilleurs joueurs du championnat.
Troisième dossier, Guillaume, important cet été, et pas des moindres, Sandro Tonali. Alors, on va peut-être commencer d'ailleurs par le truc le plus récent quand même. T'as vu un peu les lives Instagram de Totti ?
Oui.
Voilà, Totti qui s'est lancé dans une activité de scouting et d'agent et qui veut tout faire pour le récupérer dans son écurie, tout simplement.
Et il a surtout dit c'est le meilleur de tous à son poste.
À son poste, exactement.
Et venant de Guillaume Herpastine, on s'en fout, mais venant de Francesco Totti, honnêtement, c'est quand même autre chose. Donc voilà, c'est évidemment à son retour à Lille. On en parle beaucoup aussi en France par rapport au PSG, parce que on sait que Leonardo, un peu à l'image à l'époque de Marco Verratti qu'il avait été prendre à Pescara. Mais voilà, Sandro Tonali, honnêtement, aujourd'hui, tout le monde le connaît, et pas qu'en Italie. Alors son contrat, la première chose qu'il faut dire, c'est que son contrat expire en 2021, le 30 juin 2021, que visiblement, il y aurait quand même une option pour le prolonger d'une saison supplémentaire. Donc voilà, ça permettrait aussi à Chelino, le président de Brescia, de recevoir la somme qu'il espère et pas pour un joueur qui sera fin de contrat, parce que honnêtement Tonali aujourd'hui, de ce que parlent les médias et de ce que dit Chelino, ce serait peut-être aux alentours de 50 millions. Évidemment, avec le contexte encore une fois du coronavirus, peut-être qu'il sera revu à la baisse, mais on parle quand même d'un joueur très jeune qui a seulement 19 ans.
Ouais, il va avoir 20 ans voilà. Au début mai. Ouais.
C'est pour dire là encore la marge de progression qu'il a, mais la première chose qu'on peut dire aussi, c'est que sa première saison en Serie A est très réussie.
C'est dans une équipe qui est dernière du championnat.
Totalement. C'est-à-dire qu'avant l'interruption, honnêtement, il marque d'ailleurs un superbe but face au Genoa, un coup franc exceptionnel. Mais voilà, Sandro Tonali, honnêtement, pour sa première saison en Serie A, comme l'a dit Francesco Totti, et c'est pas moi qui le dis, elle fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Donc, au vu de son âge et au vu de son niveau et de son potentiel, c'est évidemment un investissement qui serait important pour un quelconque club, mais c'est un investissement qui serait rentable sur le long terme, parce que Sandro Tonali est vraiment un joueur déjà qui est troublant par rapport à la ressemblance à Andrea Pirlo. Mais par rapport à son jeu et sa capacité d'interprétation du rôle du numéro 6, ses longues passes, sa vision, sa maîtrise, il, pour son jeune âge, honnêtement, il a une maturité sur le terrain qui est assez dingue, et honnêtement, je pense qu'on est tous amoureux de Sandro Tonali.
Ouais, il a une vraie intelligence situationnelle qui lui permet de se sortir de beaucoup de phases de jeu avec ballon et sans ballon, de lecture des trajectoires, de vision périphérique pour voir où se situent ses coéquipiers quand il a le ballon. C'est vraiment un joueur qui est très très intelligent, vraiment, et effectivement très 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 mûr pour son âge. Au niveau des clubs intéressés, Guillaume, ça va être quand même très compliqué si on reste sur cette base de 50 millions d'euros. Si on prend les clubs italiens, il n'y en aura pas 50 qui pourront aligner une telle somme. Je sais que la Roma en rêve, et en rêve depuis l'été dernier, mais à ces chiffres-là, ça sera impossible. Un allié pourrait être au final Francesco Totti, si jamais il le récupère dans son écurie. Sachant que Totti a expliqué, notamment lors de ses fameux longs lives Instagram pendant la période de confinement, qu'il aimerait bien faire un premier deal avec la Roma, enfin que son premier deal se fasse avec la Roma. Ça pourrait être un allié, mais
je pense qu'il pourrait le faire quand même, même malgré les petits problèmes qu'il y a avec Palota.
En fait, ça dépendra de plusieurs, enfin d'un facteur majeur, c'est est-ce que la Roma sera rachetée ou non.
Oui.
Si la Roma est rachetée, on peut imaginer qu'il y ait une signature importante, un signal envoyé avec un jeune joueur italien qui reste en Italie. Ça pourrait être quelque chose de très impactant, sachant que Cellino, évidemment, tu te rappelles, avait dit « j'aimerais bien le vendre soit à la Roma, soit à Naples,
ouais.
Club du Sud, etc. » comme étape avant éventuellement un club du Nord. Mais très honnêtement, je pense que Il y a un club italien qui sera en avance sur tout le monde, c'est la Juve, évidemment, sur ce,
souvent.
Ouais, voilà, sur ce type de dossier à 50 millions d'euros, la Juve aura les arguments à la fois économiques et sportifs pour le faire. Alors, il faudra aussi dégraisser du côté de la Juve, on va en parler juste derrière. Mais voilà, l'Inter, le problème de l'Inter, c'est qu'ils peuvent avoir les moyens, mais c'est que c'est bouché un peu au milieu de terrain. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien occupé, Brozovic, Barella, Sensi.
Eriksen,
il y a quand même du monde au milieu de terrain, donc.
Et comme tu disais, on va parler de la Juve, mais tu vois, Pjanic, on sait que sa saison est pas simple. Du moins, c'est l'une des moins bonnes des dernières années. Voilà, si la Juve cherche un numéro 6 jeune italien, bon, Tonali coche quand même beaucoup de cases.
Ouais, sachant que la Juve s'est jamais vraiment remis entre guillemets d'avoir raté Verratti par exemple, donc il s'agirait peut-être pour aussi d'éviter une deuxième déconvenue à ce niveau-là, de ne pas réussir à prendre le meilleur espoir italien à un poste clé pour l'avenir du club. Guillaume, on parlait de la Juve, et pour Tonali, quatrième dossier, c'est la Juve, et alors c'est pas un dossier qui concerne un seul joueur, c'est il va falloir gérer les indésirables de cette équipe. Alors on met Higuain.
Qui sont
les indésirables ? On va mettre Higuain de côté. Guillaume, tu nous en parleras à la toute fin.
Oui.
Mais les autres indésirables de cette équipe, selon les infos des médias italiens, notamment de Sky, il y aurait De Chilio, il y aurait Daniele Rugani. Enfin, j'ai envie de dire, parce que Rugani, le problème c'est que ça fait 5 ans qu'il doit jouer, que c'est l'avenir et que en fait sa carrière se limite à quelques matchs par saison en Serie A et c'est pas forcément les plus réussis. Et en même temps, c'est normal parce que quand tu joues aussi peu, c'est difficile d'être toujours très bon à l'instant T. Federico Bernardeschi, le grand espoir à 26 ans toujours. C'est la fameuse phrase de notre ami Stanislas Tuchot. Sami Khedira et donc Gonzalo Higuain, ça reviendra. Ça fait quand même pas mal de joueurs. Alors, il y a eu une discussion intéressante pour bien comprendre la situation de la Juve. C'est Paratici, Guillaume, à Sky Italia. Donc, c'était dimanche 3 mai. Où Paratici a un peu parlé de la stratégie de la Juve pour l'été prochain. Il a clairement laissé entendre que la Juve était en discussion avec plusieurs autres grands clubs européens pour des opérations en commun, c'est-à-dire des échanges. Alors on sait que les échanges dans le foot, attention, c'est pas j'échange tel joueur contre tel joueur. Hein. C'est on fait un transfert de A vers B et un autre joueur de B vers A. Alors, les deux clubs sont impliqués sur deux joueurs et notamment, Guillaume, on avait beaucoup parlé, c'était lors du mercato de janvier, d'un axe Juve-PSG entre Mattia De Ciglio et Levin Kurzawa. Alors c'était une raison purement économique, hein, parce que évidemment que la Juve ne gagnerait pas au change en prenant Kurzawa pour des montants à peu près similaires, mais l'idée principale des échanges dans le foot, qui ne sont pas des vrais échanges, qui sont des doubles transferts, c'est simplement d'inscrire des plus-values au bilan comptable et rester dans les paramètres du fair play financier. C'est un espèce de... Tu sais, en italien, on utilise le mot de doping économique. C'est vraiment le cas. C'est pas forcément le côté le plus joyeux du football, hein, parce que c'est vraiment des choses purement comptables.
Le plus sain.
Ouais, ni les plus saines, exactement. Mais voilà, donc la Juve, via Paratici, a quand même expliqué qu'il fallait être créatif. Il va falloir être créatif et avoir des idées lors du prochain mercato estival. Et il a beaucoup parlé d'échanges ou de prêts de longue durée, donc 2 ou 3 ans. Pour tout simplement échelonner les paiements, puisque les clubs auront sans doute moins de liquidités. Voilà, donc il y a pas mal de joueurs dont il va falloir gérer l'avenir. On sait que ces 5 joueurs-là, donc Rugani, De Chilio, Bernardeschi, Khedira et Higuain, sont un peu sur le départ, voire beaucoup. On sait que la Juve aimerait faire de la place au niveau de sa masse salariale avec ces 5 joueurs-là qui, au final... Hormis Higuain, qui a quand même pas mal joué cette année, voilà, sont des remplaçants. Hein. On parle pas de titulaires de la Juve. C'est des joueurs qui ont des gros salaires. Hein. Khedira, c'est un gros salaire. Bernardeschi, c'est un gros salaire. Donc attention, Higuain, évidemment. Donc attention, la Juve, on parlait d'acheter Tonali. Oui, c'est dans l'idée. C'est voilà, mais il va falloir surtout beaucoup dégraisser en amont pour pouvoir avoir des vraies ambitions sur le mercato et recruter des joueurs dont le salaire sera inférieur. Par exemple, je te prends un exemple tout bête, mais on parle de milieu de terrain. Si la Juve réussit à se débarrasser de Khedira, Tonali prendra moins cher en salaire qu'un Khedira. parce que c'est logique à ce moment-là de la carrière d'avoir un salaire inférieur. Donc la Juve ferait coup double, se débarrasser de joueurs qui libèrent de la masse salariale et recruter des joueurs qui n'auront pas un impact aussi important sur la masse salariale et pourraient essayer évidemment dans les coûts du fair play financier. Donc voilà un petit peu le... Ça va être agité hein, quand même ce mercato du côté de la Juve, Guillaume, hein, parce que on est encore sur les petites vaguelettes du tsunami Ronaldo. Hein, Ronaldo a coûté beaucoup d'argent, en coûte beaucoup chaque année avec son salaire XXL, qui a plus de 30 millions d'euros, je crois, de mémoire, net. Hein. Ouais. Voilà, important de préciser que c'est net. Même s'il y a cette idée de la loi, là, je me rappelle plus du nom de la loi, qui est un peu comme l'impatriation en France, qui permet de payer moins d'impôts pour les joueurs qui débarquent en Italie, les étrangers notamment, ou les Italiens qui reviennent de l'étranger. C'est quand même des dépenses importantes, et donc du coup, il y a toujours ces petites vaguelettes où, en gros, l'arrivée de Ronaldo a eu pour conséquence d'amoindrir en termes de quantité l'effectif de la Juve déjà l'été dernier, et donc là maintenant on continue encore à devoir faire des économies, et le risque c'est bah oui d'avoir un effectif non plus de 22 joueurs de haut niveau mais d'en avoir plus que 18-17, et bah attention aux blessures, attention à la gestion des corps, etc. Donc vraiment un mercato sera vraiment une période charnière pour la Juve, ouais, des prochaines, ouais, saisons.
Je pense que la Juve aura un but déjà, probablement, c'est de renforcer son milieu de terrain de manière qualitative. C'est-à-dire qu'on sait que c'est l'un des problèmes de cette Juve, c'est que voilà, même si Rabiot est en train de progresser, du moins avant l'interruption, qu'il y avait quand même un léger mieux, on sait que voilà, quand on compare un peu avec le milieu de terrain de l'époque, soit avec Pogba, avec Vidal, avec Marquinhos, avec Pirlo, et avec d'autres, voilà, on voit que la Juve quand même au fil des années, des saisons a perdu en qualité. Ensuite, et on en a longuement parlé dans ces podcasts et même dans l'avant-saison, le problème des latéraux, évidemment qu'il va falloir corriger l'été prochain. Après, comme tu l'as dit, Paratici a parlé aussi d'un mercato style NBA, c'est-à-dire bon bah voilà, échange officiellement, comme tu le disais, un peu officieusement la donne un peu différente. Mais en tout cas, la Juve voilà, a beaucoup de chantiers. La saison, alors on verra bien si ça se termine, mais n'a pas été simple, la première saison de Sarri. Il faudra voir aussi les demandes de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il voudra, quel poste il va renforcer, qu'est-ce qu'on fait si Higuain, on en parlera tout à l'heure, si Higuain s'en va. Voilà, il y a plusieurs questions qui se posent. Ça ne va pas être simple pour la Juve, il va falloir gérer un mercato important. Mais moi, je pense que la priorité, en tout cas, c'est latéraux, parce que voilà, on a vu que c'était vraiment l'un des problèmes majeurs cette saison, et c'était pas très étonnant. Et le milieu de terrain, quand même, qui mérite d'avoir un peu plus de qualité, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment l'un des problèmes de cette Juve-là, c'est que je te dis, quand tu compares au fil des saisons, ça c'est dingue. Chaque année, t'as l'impression que la qualité régresse au milieu. Et voilà, cet été, il va falloir vraiment. Alors, je sais pas si ce sera avec un certain Paul Pogba ou avec d'autres, ça paraît compliqué comme ça au vu des coûts de cette opération, mais voilà, il va falloir renforcer le milieu de terrain, le poste des latéraux, l'attaque, si des joueurs sont bons. Donc voilà, il y a plusieurs chantiers qui s'annoncent, et comme tu l'as dit, ça s'annonce un mercato pas forcément calme pour la Juve.
On passe au cinquième dossier, Guillaume, qui concerne Sergueï Milinkovic-Savic, avec des petites infos toutes récentes aussi sur le joueur de la Lazio.
Écoute, rien d'officiel pour l'instant, mais selon Sky et selon plusieurs médias, Sergueï Milinkovic-Savic aurait prolongé son contrat avec la Lazio jusqu'en 2024. Alors, il y avait eu une mise à jour dans la foulée avec certaines sources qui disaient quand même qu'il avait déjà prolongé dès le début de saison. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais du moins, voilà, en coulisses, Milinkovic-Savic aurait prolongé son contrat, ce qui est une bonne nouvelle évidemment pour la Lazio, pour ses supporters et pour Simone Inzaghi. Après, on en parlait tout à l'heure un peu en off, évidemment que ça n'empêche pas un éventuel départ cet été, parce qu'on sait qu'il intéresse beaucoup de clubs, dont le Paris Saint-Germain, qui revient décidément dans beaucoup de dossiers. Bon, après, c'est un peu la facilité, hein. On sait que voilà, il suffit de mettre le PSG et puis bon, voilà, le prix grimpe un peu, mais c'est vrai que Milinkovic-Savic fait quand même quelques saisons qu'on annonce dans le viseur du PSG, encore plus avec l'arrivée de Leonardo, qui a évidemment un péché mignon pour la Serie A. Mais c'est vrai que cette prolongation, elle change un peu la donne, parce qu'on connaît Claudio Lotito, on connaît sa façon de négocier. C'est pas le genre de président à lâcher facilement le morceau. C'est évident que si tu viens appeler le Tito le 3 juillet 2020 en lui demandant bah, voilà, combien coûte Milinkovic Savic, qui te répond 100 millions d'euros, voire plus, ça paraît compliqué au vu du contexte actuel. Hein, parce que voir des transferts à 3 chiffres aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec ce qui va se passer, ça paraît assez difficile malgré le fait que Milinkovic Savic réalise pour le coup une vraie bonne saison. Son match contre l'Inter, son niveau affiché était quand même du vrai Milinkovic Savic qu'on a connu à l'époque. Pas la saison dernière où on l'a connu vraiment un passage à vide, mais cette saison, voilà, on retrouve vraiment le Milinkovic Savic qu'on a connu. Après, pour moi, connaissant le Tito, enfin, je ne connais pas personnellement, hein, je ne mange pas avec tous les midis, mais voilà, on connaît quand même sa capacité à ne pas lâcher le morceau. Je ne vois pas comment Milinkovic Savic pourrait partir cet été si le prix reste, on va dire, à 80, 90, 100 millions. Ce que je peux comprendre, parce que ça reste un excellent joueur. Après, je pense qu'un club peut-être préférera mettre 100 millions d'euros sur un autre joueur que sur Milinkovic Savic.
Et notamment sur un joueur qui aura des références européennes, parce que c'est là où le bas blesse, entre guillemets, du côté de Milinkovic Savic, c'est qu'on aimerait bien le voir en Ligue des Champions. Et payer 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a aucune référence en Europe, aujourd'hui, ça paraît quand même un petit peu difficile.
Il en aura peut-être l'année prochaine.
Il en aura peut-être l'année prochaine, exactement. C'est pour ça que, même si ça reste un dossier qui sera à suivre tout au long de l'été, un départ dans les conditions fixées par la Lazio, ça paraît quand même très peu probable. Et effectivement, avec une saison en Ligue des Champions, on verra peut-être ce que ça donnera. Mais il faut, par exemple, on peut évoquer à titre de comparaison, si ça vaut ce que ça vaut, mais un joueur comme Frankie de Jong, qui est très jeune, qui avait des références quand même en Ligue des Champions avec une campagne exceptionnelle, est parti pour 85 millions d'euros à peu près. Donc il faudra voir aussi ce que donnera l'évaluation de la Lazio, et si le Tito reste bloqué sur ces 100 millions d'euros, effectivement ça paraît quand même un peu compliqué. Numéro 6, dossier numéro 6, Guillaume, on passe de l'autre côté du Tibre, on passe à la Roma. Et alors la Roma, comme c'est très flou à tous les niveaux, hein, mais notamment au niveau du propriétaire, puisqu'on sait que avant le coronavirus, les négociations étaient très très avancées et sur le point de se conclure avec le groupe Friedkin, un autre investisseur américain, que le coronavirus n'a pas remis en question le deal, mais a simplement déplacé le deal de quelques semaines, et aussi l'évaluation sans doute sera un petit peu différente, le prix de cession en fait, tout simplement, pour être franc. Ça crée pas mal de flou, donc la seule chose qu'on peut dire actuellement, c'est, en termes de dossier pur, c'est la gestion des joueurs prêtés. Alors il y a 3 joueurs importants qui sont prêtés à la Roma cette saison, enfin 3, surtout 2, puisque le cas de Kalinic, lui, semble quand même réglé, vu qu'il est sans arrêt blessé et qu'il n'a pas du tout eu d'impact sur la saison de la Roma. Il y a quand même de très très grandes chances pour que le Croate retourne à l'Atlético de Madrid et ne soit pas confirmé par la Roma, mais du coup ça nous laisse 2 cas majeurs. Le premier, c'est le plus important selon moi, c'est Chris Smalling. C'est la vraie surprise cette saison, Guillaume, on l'a déjà dit dans le podcast, on s'attendait pas du tout à voir le défenseur anglais à ce niveau-là en Serie A, dans un championnat qui est évidemment très exigeant. Tactiquement, et c'est vrai que ce qu'on avait vu de Smalling, aussi bien avec la sélection qu'avec Manchester United, n'était pas des plus rassurants quand on a vu son nom circuler du côté de la Roma. Reste qu'il a fait d'excellentes performances, qu'il s'est très bien acclimaté à la fois à la ville et à l'environnement du club. Pour parler de sa situation contractuelle, le prêt était sec, c'est-à-dire sans option d'achat, et le salaire du joueur pris en charge par la Roma à hauteur de 3 millions d'euros net. Pour rester à la Roma. La Roma devra sans doute s'acquitter d'une indemnité d'environ 20 millions d'euros, c'est ce qui est évoqué par les médias italiens et les médias anglais. Au niveau du salaire, ça sera sans doute légèrement supérieur à 3 millions d'euros net. Je vois une grosse difficulté là-dedans. La grosse difficulté, pour moi, c'est de faire attention à la jurisprudence Fazio. C'est-à-dire qu'un joueur moyen qui sort une saison exceptionnelle et inattendue, ça existe. Il faut que ça dure dans le temps. Et Fazio avait une carrière moyenne jusque-là, en échec dans plusieurs clubs. Il sort une saison 2017-2018 exceptionnelle où la Roma va en demi-finale de Ligue des Champions. Une saison très spectaculaire, sauf que le problème, c'est que derrière, il a retrouvé son niveau normal, c'est-à-dire un niveau moyen. Sauf que Smalling, le risque, c'est de payer 20 millions d'euros d'indemnité de transfert et un peu plus de 3 millions d'euros net de salaire. Donc c'est plus que ce qu'a coûté Fazio en indemnité de transfert et plus que ce que coûte Fazio en salaire. Donc la vraie difficulté pour moi, elle est là. Je suis pas sûr que les finances de la Roma permettent ce genre de, on va dire, de risque, hein, Guillaume, en fait, tout simplement, d'un joueur qui pourrait avoir fait la Wonder Season et derrière qui se retrouve à son niveau normal de United. Et là, ce serait clairement pas le même Smalling, du coup.
Quel joueur tu penses que la Roma privilégiera entre, par exemple, Mkhitaryan et Smalling? Parce que même Mkhitaryan, honnêtement, réalise une bonne saison. Même malgré sa blessure, voilà, on a quand même vu un bon niveau, voire un très bon niveau. Si la Roma devait privilégier l'un des deux, Arsenal ou Manchester, tu penses que ce sera lequel?
Honnêtement, je sais pas du tout. Et c'est vrai que Mkhitaryan, c'est le deuxième joueur, le deuxième cas majeur entre guillemets du club. Sa saison, elle est bonne, mais elle est quand même compliquée aussi, parce qu'en fait, il fait que 8 titularisations en Serie A, plus 5 entrées en jeu, 2 titularisations et 2 entrées en jeu en Europa League. Alors le bilan chiffré, il est bon, 6 buts et 4 passes décisives, c'est correct. Enfin, c'est même plus que correct, c'est un bon bilan. Le problème, c'est que un tiers de ce bilan, c'est contre Lecce en aller-retour. Donc déjà, faut quand même prendre note de ça. Et le problème, c'est que les chiffres aussi derrière, c'est que la Roma va devoir payer une indemnité aux alentours de 15 millions d'euros pour le confirmer, avec un salaire là aussi supérieur à 3 millions d'euros net. Les performances sont certes globalement bonnes quand il joue, mais le problème c'est qu'il joue pas assez. Et on sait qu'à la Roma, des joueurs blessés, il faudrait éviter d'en accumuler trop parce qu'il y en a déjà beaucoup. Est-ce que t'es aujourd'hui en situation de prendre deux risques aussi importants financiers, deux risques financiers? J'en suis pas certain. Disons que la Roma aurait besoin d'un peu plus d'intelligence et de travail dans le recrutement, que de faire des coûts très coûteux. Ok, un coût comme ça sur une saison où tu payes pas d'indemnité de transfert et où tu payes 3 millions d'euros net de salaire. Moi, j'étais pas spécialement pour Kalinic, même Mkhitaryan et Smalling au vu de leur saison précédente. Je constate que Smalling a été très bon, que Kalinic a eu zéro incidence sur la saison et que Mkhitaryan, bon, a eu une petite incidence, mais globalement, c'est pas dingue non plus. Là, le problème, c'est qu'on parle d'indemnités de transfert et des lourdes indemnités de transfert. Je veux dire, la Roma, c'est pas la Juve. Ils peuvent pas se permettre des indemnités de transfert aussi importantes pour des joueurs qui seront en échec. Donc, ils l'ont fait avec Schick et je pense qu'ils ont, avec Schick et Defrel ces dernières saisons, je suis pas persuadé qu'ils aient envie de recommencer aujourd'hui. Donc, on verra. Fonseca, lui, a déjà dit qu'il voulait garder les deux, évidemment. Mais je suis pas persuadé que la Roma ait les finances qui lui permettront de faire ces deux dossiers. Mais en tout cas, ces deux dossiers vraiment très importants de la Roma cet été. Guillaume, on part sur le septième dossier. Et c'est le dossier qui agite un peu toute l'Italie en ce moment. On retourne du côté de Milan, de l'Inter, avec Lautaro Martinez.
Oui, c'est le dossier qui agite tout le monde et qui fait souvent la une des journaux italiens et donc espagnols parce que le Barça, on aurait fait sa priorité. Visiblement, c'est quand même quelque chose de confirmé et d'assez certain au vu des dires des médias espagnols. Même la Gazeta avait récemment confirmé cet intérêt. En gros, de ce qui ressort de ce dossier-là, c'est que seul le Barça, entre guillemets, pourrait faire vaciller Lautaro parce que la volonté de Lautaro serait de rester à l'Inter. Après, si le Barça devient plus concret dans ses démarches, peut-être que Lautaro demandera à partir. C'est là que je joue à peu près tout le dossier. C'est-à-dire que Javier Zanetti a été très clair, Marotta aussi, en disant si un joueur veut partir, il vient nous voir, il nous demande officiellement son départ, et après, on étudie, on regarde, on voit si une offre convient, et après, éventuellement, on envisage un départ et remplacer le joueur. Pour l'instant, visiblement, Lautaro n'a pas encore fait cette démarche. C'est-à-dire que on sait qu'il y avait aussi des négociations pour prolonger son contrat. Pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Après, son contrat est jusqu'en 2023, donc il y a encore aussi un peu le temps. Mais voilà, le vrai entre guillemets détail et pour l'Inter, c'est que sa clause actuellement est à 111 millions d'euros et elle serait valable les deux premières semaines de juillet. De ce que disent les médias. Alors, sur la somme, ça, on va dire que c'est plus ou moins confirmé. Sur les modalités du paiement, Et des dates, c'est encore compliqué, mais voilà, c'est une clause de 111 millions d'euros qui serait valable les deux premières semaines de juillet. Pour le Barça, dépenser 111 millions d'euros, moi j'y crois très peu, et les médias aussi y croient peu.
Ah, clairement ouais. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, le Barça passe 111 millions d'euros actuellement en trésorerie pour le faire.
Et encore vu, voilà, vu en plus, j'ai envie de dire, sans l'état du mercato actuellement lié au coronavirus, même sans ça, le Barça, on sait que les caisses, voilà, c'est déjà compliqué. Donc aujourd'hui, c'est encore plus accentué sur les caisses du Barça. Donc voilà, c'est quand même très compliqué. L'idée du club catalan, ce serait de proposer des joueurs dans le deal. Alors, il y a eu des noms comme Arthur Melo, mais voilà, c'était rapidement écarté par l'intéressé et par Bartomeu la semaine dernière. Donc voilà, peut-être des joueurs comme Junior, comme Rakitic, comme Vidal. Voilà, c'est des joueurs qui pourraient intéresser l'Inter. C'est le seul moyen probablement que le deal se réalise. Après, on sait que sur le deal, c'est très compliqué parce qu'il faut se mettre d'accord avec tous les joueurs, avec toutes les parties, être d'accord sur la valorisation des joueurs. Donc voilà, c'est un dossier très complexe. La seule chose qui paraît certaine, c'est vraiment que le Barça le veut. Ça, c'est la chose qui est sûre à 99,9%, comme disait Galliani à l'époque. Donc voilà, mais c'est vrai que de ce qui ressort, c'est que Lautaro, pour l'instant, n'a pas manifesté une volonté de partir, très claire. Il doit être encore aussi en période de réflexion parce que actuellement, le mercato, c'est quand même pas la priorité parce qu'on ne sait pas si elle s'en va reprendre. Il y a quand même plein de choses qui passent avant. Mais les négociations, en tout cas pour une prolongation, traînent un peu. Il n'y a pas d'officialisation. La clause est toujours là. Avant tout ça, on disait que 111 millions d'euros, c'était peut-être pas beaucoup. Alors ça peut paraître aussi indécent, mais ça, quand on y repense, comme ça que le recul. Mais beaucoup de médias disaient oui, mais 111 millions d'euros pour Lautaro, au vu de la saison qu'il réalise, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, honnêtement, on parle du Barça, mais quel club pourrait dépenser 111 millions d'euros pour un joueur? Ça paraît quand même très compliqué. Donc à part un deal, comme je disais, avec échange ou avec ajout de joueurs, peut-être que ce serait possible. Mais du moment que Lautaro ne toquera pas au bureau de Marotta en disant voilà, j'ai décidé de partir, l'Inter bougera difficilement dans le sens d'un départ, parce que Lautaro réalise une très bonne saison, avec un petit coup de moins bien ces derniers mois avant l'interruption. Mais pour l'instant, malgré les nombreuses, nombreuses, nombreuses rumeurs, Lautaro-Inter, ça bouge pas beaucoup. Après, je te dis, si demain Lautaro décide d'aller voir Marotta, peut-être que la donne va changer.
Et Lautaro Martinez, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie des trois transferts cet été qui sont évoqués à une somme d'environ 100 millions d'euros. Le premier, oui. On en a parlé tout à l'heure, c'est Milinkovic-Savic. Le deuxième, c'est Lautaro Martinez. Et le troisième serait un transfert entrant, pour le coup, qui vient de l'étranger. T'en as parlé juste avant, c'est Paul Pogba. Voilà, c'est les trois gros transferts qui sont imaginés, pour le moment ça reste que imaginés ou négociés avec des clubs italiens cet été. Ce qu'il faut dire aussi sur Lautaro Martinez, c'est que sa valeur, elle est aussi liée alors à tout ce que tu as dit, ses performances, etc. Son contrat qui est encore assez long, mais aussi à son âge, il a que 22 ans. Et donc forcément, c'est aussi une donnée, on va dire, importante qui rentre en ligne de compte. Voilà pour le dossier Lautaro. Alors on a
après,
vu
on n'a pas parlé de Lionel Messi, c'est vrai qu'on oui, parle a... aussi par rapport au fait qu'il soit argentin, que lui aurait validé cette arrivée et que la perspective de jouer avec Messi pourrait aussi convaincre Lautaro de signer au Barça. Tiens, c'est un gros détail, mais bon, ça pourrait jouer aussi.
On a entendu parler aussi d'un échange qui n'en est pas un, je répète, avec Griezmann. Tiens, toi, si je te dis aujourd'hui, on fait un échange. On fait Fantacal, tu vois, hein, 2 minutes. Si je te dis, on fait un échange avec des sommes à peu près équivalentes entre Lautaro et Griezmann. Est-ce que si t'es dans l'Inter et que tu dois conclure ou pas conclure le deal, est-ce que tu le fais?
C'est compliqué parce que, la perspective, la progression, la marge de progression pour Lautaro me paraît tellement encore importante et moi, honnêtement, après Griezmann est champion du monde, c'est pas simple. Mais après. Alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues d'Eurosport parce qu'ils n'avaient pas du tout apprécié cette rumeur mettant en cause un champion du monde et Lautaro Martinez. Moi, comme ça aujourd'hui, probablement je garderai Lautaro. Mais je sais pas.
C'est pas évident.
Honnêtement, c'est compliqué. Griezmann. C'est pas évident parce que Griezmann est un joueur exceptionnel. Hein.
Mais Griezmann a 29 ans, il arrive dans la trentaine l'année prochaine.
C'est pour ça. Lautaro, tu l'as dit, a 22 ans.
Exactement, il aura 23 ans dans quelques mois.
Voilà. Et au vu de sa saison, moi ce match contre le Barça, au retour, ça a été époustouflant. Donc, à 22 ans, faire des matchs comme ça sur la scène européenne, tout à l'heure on parlait de Milinkovic-Savic, qui n'a pas encore disputé un match des champions, Lautaro a quand même prouvé qu'il avait le niveau. Pour jouer avec des champions cette année, il a littéralement explosé. Voilà, Griezmann, comme tu l'as dit, à 29 ans, ça reste un joueur exceptionnel, mais si je devais garder un joueur aujourd'hui, Lautaro, quand même, son association avec Lukaku, voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est quand même très complexe. Comme tu l'as dit, c'est du fantacatch, donc ça reste compliqué.
Huitième dossier, Guillaume, c'est Dries Mertens. Alors lui, c'est un dossier un peu particulier, puisqu'il arrive en fin de contrat, là, dans quelques mois. Maintenant, c'est dans moins de deux mois. Ouais, un mois et demi, maintenant. Avec Naples, il a toujours pas prolongé. On sait que les discussions se poursuivent depuis de longs mois avec De Laurentiis et les représentants de Dries Mertens. Alors honnêtement, il fait partie quand même des joueurs les plus bankable en fin de contrat cet été. Et donc logiquement, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par le profil de Dries Mertens. Ok, il a un âge avancé, il a une bonne trentaine maintenant, je crois que de mémoire il doit avoir 32 ans, Dries Mertens. Donc effectivement, c'est pas un joueur pour l'avenir, on va dire ça comme ça. Il va avoir 33 ans là en mai d'ailleurs, donc le 6 mai, donc c'est dans deux jours. Il aura 33 ans, donc évidemment que c'est pas un joueur pour lequel tu vas dépenser énormément d'argent, mais pour le coup, il est en fin de contrat. Et puis, mine de rien, même s'il y a certains supporters napolitains qui ont été très durs avec lui cette saison, un peu moins durs aussi qu'avec certains autres joueurs de Naples, ses performances en Ligue des Champions ont montré qu'il était encore dans le coup. On rappelle qu'il a été buteur en aller-retour contre Liverpool, il a marqué un doublé à Salzbourg, il marque contre le Barça. Donc mine de rien, même avec ses 33 ans bientôt, c'est un joueur qui a été décisif dans la compétition la plus difficile européenne. La compétition européenne la plus difficile, plus difficile et plus exigeante que les championnats. Donc évidemment, sa cote, elle reste encore malgré tout assez haute auprès de clubs. Alors évidemment, il va pas signer au Real Madrid, c'est pas ça l'idée. D'ailleurs, les prétendants pour une arrivée, les prétendants... affirmé, entre guillemets, c'est Chelsea, l'Inter et la Roma. Donc évidemment, on n'est pas sur du Real Madrid, du Barça, de la Juve, etc. Pour autant, recruter un Dries Mertens pour une période de 2 ans, sans doute ce serait un contrat de plus 1 avec les joueurs de cet âge-là, bah pour des clubs comme Chelsea, l'Inter et la Roma, ça peut être des joueurs très intéressants. L'Inter, par exemple, si tu enlèves par exemple Alexis Sanchez, qui a très peu de chances de rester, bah avec Lautaro, Lukaku et Dries Mertens, en termes de secteur offensif, t'es quand même pas mal. La Roma, qui a besoin d'un joueur autour de Dzeko, avec Dries Mertens, c'était très bien. Chelsea, qui a besoin d'un joueur un peu plus expérimenté, mobile, qu'un Abraham et qu'un Olivier Giroud, ça peut être aussi une solution. Donc voilà, il faut quand même rappeler ses stats cette saison. C'est 12 buts et 3 passes décisives en Serie A et Ligue des Champions donc confondus. 12 buts, 3 passes décisives. En 28 matchs et seulement 19 titularisations. Donc il est quand même impliqué sur 15 buts directement en 28 matchs et 15 buts en seulement 19 titularisations. Et c'est pas des buts que contre Lecce. Je parlais de Mkhitaryan qui avait le tiers de son bilan chiffré contre Lecce. Là, j'ai parlé tout à l'heure de ses buts en Ligue des Champions contre Liverpool en aller-retour contre le Barça. Dries Mertens a été décisif dans les gros matchs. Donc voilà, après il y a l'inconnu, c'est le club qui va le recruter, est-ce qu'il le fera jouer sur un poste d'attaquant, soit en attaquant de pointe, on sait que c'est pas un attaquant comme les autres, hein, ou soit comme second attaquant autour d'un autre attaquant, ou est-ce que il peut retrouver l'aile gauche où il a été au début au PSV Eindhoven, à son arrivée à Naples, où il est encore performant, mais tu sais, je parlais tout à l'heure de Boga, du 1 contre 1, des capacités physiques. Est-ce que Mertens, à 33 ans, a encore les capacités physiques pour faire toute une saison sur le côté avec les replis défensifs, la capacité d'accélération, etc. J'en suis pas persuadé. Il peut le faire sur quelques matchs, mais sans doute pas toute une saison. Donc il y a cette donnée-là aussi qu'il faudra voir avec Dries Mertens. Mais c'est un joueur polyvalent, qui est encore bon dans les grands matchs, qui marque, bon, qui arrive en fin de contrat. Donc c'est quand même pas mal de bons arguments pour.
C'est ça la clé. La clé, c'est que tu parles d'un joueur qui est en fin de contrat, que le contexte actuel est difficile, que le mercato des attaquants pourrait être assez agité. Donc c'est vrai que Dries Mertens quand même coche beaucoup de cases pour des clubs qui recherchent un attaquant. Comme tu l'as dit, sa saison est quand même assez bonne. C'est un joueur quand même qui pourrait arranger voilà, plusieurs clubs qui cherchent un buteur dès certains standings. Alors évidemment, c'est pas à long terme parce que, comme tu l'as dit, Mertens a 33 ans. Donc il y a aussi une période où probablement il va peut-être aller voir ailleurs et commencer peut-être une aventure plus exotique. Mais pour l'instant, vu de son niveau et de ce qu'il peut encore donner, moi, Mertens, demain, si j'ai un club qui n'a pas les finances, alors évidemment qu'il y a aussi le salaire que tu dois lui payer, mais si tu économises, entre gros guillemets, une indemnité de transfert au vu de la période actuelle, Mertens, c'est quand même un joli coup à faire. Et au-delà des frontières italiennes, c'est clair que voilà, il pourrait aussi. Je dis, moi, si j'étais un club aujourd'hui, si j'avais un club avec des finances, disons à la limite, voilà, Mertens, c'est quand même pas mal. Même si son salaire est important, sa saison est plus que correcte. Je pense que après, concernant une prolongation, là, voilà, il y avait eu une période d'optimisme avant l'interruption liée au coronavirus. Aujourd'hui, on en parle un peu moins. Donc voilà, ça reste un dossier quand même épineux. Et en tout cas, c'est certain que Mertens, c'est un joueur qui va aussi un peu animer le mercato, parce que le Napoli devra prendre une décision avant la fin de son contrat. Une fois le contrat expiré, mais avec Mertens qui est libre de s'engager où il veut, là, ça paraîtrait quand même compliqué de l'imaginer encore à Naples.
On passe à notre avant-dernier dossier, Guillaume. On reste sur les attaquants et on va donc parler, on l'a évoqué un petit peu plus tôt dans ce podcast, du Pipita de Gonzalo Higuaín.
Exactement, alors revenu un peu à la surprise générale l'été dernier de Chelsea, on va dire qu'il avait un peu suivi Sarri qui est son mentor, ou du moins l'entraîneur qui le recrute à peu près partout, hein. Il a eu à Naples, ensuite il a eu Chelsea, il a eu la Juve. Donc voilà, ça reste un binôme qui s'est reformé à la Juve. Sa saison est correcte, voilà, elle n'est pas non plus flamboyante, mais disons qu'elle est correcte. 8 buts et 8 passes décisives en 34 matchs.
Elle avait mieux démarré, voilà, qu'elle ne s'est achevée pour le moment.
Exactement, exactement. Elle avait même bien, trop bien démarré, et après elle a trop vite calé. Mais c'est vrai que voilà, 8 buts, 8 passes décisives, 34 matchs, voilà, ça reste correct. Une donnée importante, Higuaín est en fin de contrat en 2021. Donc, encore une fois, comme je disais avec Donnarumma, comme je disais avec Pogba, comme je disais avec d'autres, c'est tout rien pour la Juve. C'est-à-dire que si la Juve ne le prolonge pas, il faut le vendre l'été prochain pour monétiser son transfert. Donc pour Higuaín, de ce qui se murmure en Italie et de ce que disent les médias, notamment Tuttosport, qui est assez proche de la Juve, c'est qu'un départ serait plus que dans l'air. Higuaín, visiblement, n'aurait pas très envie de rentrer en Italie. Il est actuellement en Argentine. On sait que ouais, il a aussi quelques soucis familiaux et lui aimerait bien peut-être rester en Argentine. Donc, il y a aussi cette épine-là à s'enlever du pied pour la Juve. Mais en tout cas, voilà, c'est un dossier qui est très complexe. Mais mon avis à moi, c'est que probablement l'histoire est terminée entre Higuaín et la Juve. Je pense qu'Higuaín avait tout ce qu'il pouvait à la Juve. Il y a eu ce départ à Milan, qui s'est très mal passé parce que Higuaín n'avait pas du tout apprécié la manière dont la Juve l'avait vendu. Et dans son histoire, c'est terminé. Il a été à Chelsea, ça n'est pas non plus la folie. Il est revenu à la Juve après avec un sentiment de revanche. Pour regagner ce qu'il avait perdu et pour montrer à la Juve qu'il avait encore le niveau pour jouer à la Juve. Il marque le but contre l'Inter par exemple dans le choc du match aller à San Siro. Voilà, après tu l'as dit, c'était un peu plus calme, mais en tout cas voilà, tout laisse à penser quand même que l'histoire entre la Juve et Higuaín va se terminer. Après, où il pourrait rebondir, probablement peut-être en Argentine ou dans un club, on va dire, un peu plus pas européen, parce que Higuaín aussi, à son âge, ça va être compliqué. Il a 32 ans, donc ça va être compliqué peut-être pour retrouver un club européen. Moi, je pense qu'il, voilà, le voir rebondir peut-être en Argentine pour rester proche de sa famille, ça pourrait être le bon compromis. Mais le revoir à la Juve une saison de plus, Je pense que la Juve veut s'en séparer. Higuain, peut-être pas très, très chaud de rester à la Juve. Donc voilà, c'est un mariage quand même qui semble doucement aller vers le divorce.
Alors, il y a quand même une difficulté, moi, je trouve, c'est que la Juve est pas en position de force. Parce qu'en fait, plusieurs données. Higuain va avoir 33 ans en fin d'année, en décembre 2020. Et il lui reste un contrat, donc jusqu'en 2021. Il faut savoir quand même qu'il touche 7,5 millions d'euros net par an avec son contrat à la Juve. Tu as parlé de son sentiment de revanche tout à l'heure et du fait qu'il n'ait pas trop apprécié comment ça s'était passé avec son départ, son prêt à Milan. Je suis pas persuadé qu'aujourd'hui Higuain soit dans une position où il a envie de faire des cadeaux à la Juve. Qui aujourd'hui a 33 ans, sachant qu'il jouera toujours un petit peu, est prêt à s'asseoir sur une dernière année de contrat à 7,5 millions d'euros net, sachant que avec son âge et avec ses récentes performances, il retrouvera jamais un club de ce que tu as dit, de la stature et de l'envergure de la Juve. Donc, il pourrait très bien décider d'aller au bout de ce contrat, quitte à tant pis les 6 derniers mois, par exemple, à être sur le banc, à jamais jouer, à être écarté un peu comme Mandzukic avait eu droit à ce traitement de faveur, et puis après repartir pour un dernier contrat d'un, deux ans en Argentine, tranquillement. Voilà, ça peut être aussi une option pour Higuain de se dire... Attends, j'ai un contrat XXL, je retrouverai jamais ça. Dernière année de mon contrat avec la Juve, et je me bats, je suis pro, j'essaye de jouer, je vais jouer quelques bouts de match, etc. Et puis derrière, bah, je ferai encore un ou deux ans en Argentine à des chiffres beaucoup plus bas pour le coup, parce qu'aucun club argentin peut payer un salaire de ce type-là. Mais ça peut être aussi une option. Et la Juve, pour moi, elle a pas les cartes en main. Enfin, elle a les cartes en main, mais elle a pas l'atout, en fait, si tu veux. Elle est pas en position de force.
Tu sais que l'année dernière, ce qui s'était passé, c'est que lui, plus que la Juve qui a voulu le voir rester, c'est lui qui surtout qui a dit « moi je pars pas ». Et il avait fait, comme tu l'as dit, le forcing pour rester. Ça avait posé problème parce que la Juve, elle, voilà, avait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle avait essayé de vendre. Alors c'est dans un contexte un peu différent, mais pour l'Odibala, parce que la Juve avait besoin aussi de renflouer ses caisses. Higuain n'avait pas voulu partir. Donc oui, c'est aussi possible qu'Higuain dise « bah non, moi je bouge pas, j'ai pas envie ». Et de toute façon, j'ai envie de te dire, si un joueur a un contrat, libre à lui aussi de rester. Hein. Après, voilà, il y a aussi plusieurs moyens de pression d'un club sur un joueur. Après, ça ressemble pas beaucoup à la Juve et j'imagine mal Higuain voilà, mis de côté. Mais c'est vrai que c'est un dossier, comme je l'ai dit, qui est épineux, que la Juve doit gérer. Et bah, c'est sûr que le salaire qu'il a, pour le retrouver ailleurs, honnêtement, à son âge, ça paraît assez compliqué. Donc voilà, on disait tout à l'heure que la Juve va avoir un été assez agité. Bah voilà, avec le dossier Higuain déjà à gérer, ça va être un été assez chaud pour la Juve.
Alors on parlait d'un joueur de bientôt 33 ans, on va parler d'un joueur de bientôt 23 ans comme dernier dossier, notre 10e dossier mercato de l'été à suivre. C'est Federico Chiesa. Alors évidemment, il aurait pu partir l'été dernier, il aurait aimé rejoindre un plus grand club. Mais finalement, Rocco Commisso, qui a racheté le club et qui est un propriétaire avec des moyens, avait réussi à le convaincre de rester. Le problème, le vrai problème, c'est que la Fiorentina est une nouvelle fois déçue cette saison, malgré des investissements, parce qu'on pouvait encore trouver quelques excuses les saisons précédentes en disant « bon, ok, c'est la deuxième division de la Serie A, c'est-à-dire que derrière les 5-6 gros, y a un autre championnat ». Économiquement notamment, et donc ils n'ont pas fait beaucoup de recrutement. Là, si on parle des investissements de l'été dernier, il y a quand même Lirola, Coutronné cet hiver, Badelj, Pulgar, Duncan, Franck Ribéry. Donc Rocco Commisso a mis des moyens, et le fait est que actuellement, avant une éventuelle reprise, précisons, ils sont 13e en championnat. Et honnêtement, c'est indigne de la qualité de l'effectif de la Fiorentina, qui a changé d'entraîneur aussi. Mais vraiment, de voir un effectif comme ça, 13e du championnat, c'est vraiment catastrophique. Donc Federico Chiesa, il a une grosse valeur marchande. C'est aussi un enjeu pour Commisso, le nouveau propriétaire, parce que tu réussis à le garder encore une saison, tu dis, la Fiorentina a sans doute un projet intéressant pour que Chiesa, qui est courtisé, reste une année de plus, et c'est, allez, on va dire, un témoin des ambitions du propriétaire de la Fiorentina. Le deuxième enjeu, c'est que en cas de départ, il ne faut surtout pas le vendre à la Juve, parce que on sait que les tifosi florentins ont déjà vécu le départ de Baggio de la Fiorentina à la Juve. Ils ont ensuite vécu le départ de Bernardeschi, qui est un chouchou de Florence, à la Juve. Si derrière, il y a le départ de Chiesa, aussi, également, alors Chiesa, fils d'Enrico, qui a aussi joué à Florence, très attaché à Florence, etc., part aussi du côté de la Juve, ça va être vraiment un drame, et en termes d'image pour Commisso, seulement après un an après son arrivée, ça serait vraiment catastrophique, je pense. Donc il y a deux enjeux vraiment très importants pour le nouveau propriétaire, et derrière ça, il y a aussi la volonté de Chiesa. Chiesa, il va avoir 23 ans, je l'ai expliqué, il a besoin de jouer à un plus haut niveau, il a besoin de jouer aussi peut-être la Coupe d'Europe, on parlait de Donnarumma tout à l'heure, bah, Chiesa, il va être temps aussi de jouer la Coupe d'Europe, il faut aussi jouer pour gagner, développer un peu la mentalité de ce genre-là, d'être plus exigeant, d'être mieux entouré. Ça risque d'être un dossier encore une fois complexe parce que il a une valeur marchande. Allez, Guillaume, c'est quoi? C'est 60, 70 millions? 5, allez, on va dire entre 50, prenons large, entre 50 oui, et 70 ouais, millions d'euros. Dans ces eaux-là, ça dépend pré-coronavirus ou post-coronavirus aussi. Le club le plus intéressé de ce qu'on entend de ces derniers mois, c'est la Juve. Et donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Tifosi florentins. Le deuxième club très intéressé, c'est l'Inter, Guillaume.
Oui.
Dans l'idée aussi
très
de
intéressé.
Voilà, exactement. Donc dans l'idée de d'avoir un troisième homme fort en attaque avec Lautaro et Lukaku, puisque Alexis Sanchez n'a pas forcément donné satisfaction. Voilà, dossier épineux pour la Fiorentina. C'est autant un dossier économique au final, parce que derrière, si t'arrives à le vendre 60 millions d'euros par exemple, tu peux quand même recruter pas mal de bons joueurs derrière. Mais c'est surtout un dossier sur l'image. Pour un enjeu vraiment très important pour Commisso. Un an après son arrivée, si tu vends Chiesa, déjà c'est pas bon. Si tu le vends à la Juve en plus derrière, c'est vraiment mauvais. Donc à voir ce qui va se passer, mais c'est clairement un des jeunes Italiens les plus courtisés. On parlait de Tonali qui est encore plus jeune évidemment, mais Chiesa fait partie aussi de ces jeunes joueurs qui en plus ont un peu d'expérience maintenant avec la nationale et qui seront courtisés par l'Inter et la Juve et peut-être des clubs étrangers, même si on n'entend pas trop parler pour le moment, Guillaume. Voilà qui boucle un peu notre top 10 des dossiers les plus chauds. Alors on aurait pu citer Pogba, on aurait pu citer l'arrivée d'un nouvel attaquant à la Roma, on aurait pu citer du côté du Milan, ce qui voilà des dossiers aussi ouais, importants.
Ça va bouger à peu près partout, mais le coronavirus va quand même changer beaucoup de choses, beaucoup de données. Pas qu'elle va calmer le mercato, elle va déjà calmer les prix, ce qui en soi est quand même pas un mal. Mais c'est vrai que certains chiffres, certaines sommes évoquées avant le coronavirus ne peuvent plus l'être aujourd'hui. Donc voilà, on va assister à un mercato différent, animé pour certains clubs. Mais voilà, faire un top 10, c'est sûr que c'est toujours complexe, surtout quand on est seulement début mai. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même plusieurs tendances qui se dégagent, voilà, comme Lautaro, comme Milinkovic-Savic et comme d'autres. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe, mais voilà, c'est sûr que ce sera un mercato qui sera différent.
Voilà qui boucle notre 14e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé. Un rappel, on est aussi sur Patreon, patreon.com/calcioepépé pour du contenu supplémentaire. Et on vient d'enregistrer le 11 historique de l'Inter après avoir fait celui de la Juve, du Milan et de la Roma. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N. On est aussi sur Twitter, Guillaume, on est sur Facebook, sur Deezer, sur Spotify, Apple Podcast, n'oubliez pas les 5 étoiles, sur quoi encore, Google Podcast, enfin bref, on est partout. N'hésitez pas à nous suivre et on se dit donc à très vite le mois prochain pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé, version gratuite. Salut à tous!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.